Bonjour à tous. Ce matin, je vous invite à un voyage en Méditerranée, un voyage raconté dans le livre des Actes, dans les derniers chapitres. Luc, l'auteur du livre, fidèle compagnon de Paul, décrit avec beaucoup de précision ce déplacement de Jérusalem à Rome dans les années 60 après la naissance de Jésus. La mer Méditerranée est fréquentée par les bateaux qui font du commerce, par les militaires pour le transport des troupes, essentiellement, peut-être même par des pirates, n'est-ce pas ? Bateau à voile, soumis aux aléas du vent, ou bateau à rame, rame actionnée par des prisonniers enchaînés à leur banc de galériens. La mer, de tout temps, est un milieu naturel, hostile et rude. Le vent, les vagues, l'obscurité, le froid, l'humidité. La vie humaine semble ne tenir qu'à un fil lorsque les éléments naturels se déchaînent. Écoutons le récit du voyage de Paul de Jérusalem à Rome. Acte 27, verset 1 à 28, verset 16. Pour suivre le récit, nous allons essayer de projeter une carte. Ah, ça marche, c'est parfait. Qui reprend le trajet de ce quatrième voyage de la grande Rome. Non, parce que comme le texte a cité pas mal de noms, vous pouvez suivre sur la carte l'itinéraire suivi. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiberner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurakilon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Sirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit : Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit au centenier et aux soldats : Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant : C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez de vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vos cheveux ne se perdra. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire. Et la proue s'étant engagée resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres : Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne des Dioscures. Ayant abordé Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio et le vent du midi s'est enlevé le lendemain de film en 2 jours le trajet jusqu'à Fouzol, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allons à Rome. Paul, prisonnier, embarqué pour l'Italie. Comment en est-il arrivé là ? Dans les chapitres précédents, nous lisons, acte 19, verset 21. Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serai allé, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Et en acte 21, verset 4, lors d'une escale à Tyr, les disciples poussés par l'Esprit disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il est vrai que le pouvoir religieux juif de l'époque se sentait menacé par l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ pour tous les hommes, et pas seulement pour ceux qui observent strictement la tradition autour de la circoncision, des sacrifices et des offrandes. Dans les endroits où Paul passe, plusieurs récits de troubles à l'ordre public sont racontés. Son retour à Jérusalem, sa confrontation avec ses collègues gardiens de la tradition sera forcément conflictuelle. Mais Paul n'écoute pas l'avis des frères, même si le récit dit qu'ils étaient poussés par l'esprit. Au verset 12, les frères de Césarée, après une prophétie qui annonce que Paul sera fait prisonnier, le prient de ne pas se rendre à Jérusalem, et au verset 14, il est dit que Paul ne se laissa pas persuader. À Jérusalem, la présence de Paul tourne à l'émeute. La foule s'empare de lui sous prétexte qu'il enseigne de ne pas circoncire les enfants et qu'il aurait introduit un non-juif dans un endroit du temple interdit à leur présence. En plein lynchage, les soldats romains s'emparent de lui pour le mettre en prison en attendant de comprendre ce qui provoque ce trouble à l'ordre public. Paul met en avant sa citoyenneté romaine de naissance, ce qui le protège par rapport à la volonté de lui nuire des pharisiens et des sadducéens. Au chapitre 23, verset 11, nous lisons « Le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Au chapitre 25, verset 11, Paul, en présentant sa défense devant Festus, le gouverneur de Judée, en appelle à César. Et Festus de conclure, « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » 2 ans d'assignation à résidence, avec néanmoins pas mal de liberté, et c'est le moment pour les autorités romaines d'organiser le transfert vers l'Italie. Embarquer pour Rome n'est pas le fruit du hasard et des circonstances. Les frères parlent, Paul ne les écoute pas même lorsqu'ils se disent poussés par l'esprit, pour le mettre en garde. Le Seigneur donne la conviction à Paul qu'il ira témoigner de l'Évangile à Rome. Notre vie, comme celle de Paul, n'est pas écrite d'avance. Si nous sommes là où nous sommes à cet instant, ce n'est pas le fruit du hasard ni des circonstances. Nous avons fait des choix, pris des décisions, tenu compte ou non de l'avis de notre entourage et écouté Dieu pour prendre part à son projet. Le chemin n'est pas facile. Paul a été préservé du lynchage à plusieurs reprises. Il a toujours été actif pour défendre son ministère. Il n'a pas hésité à faire jouer le droit en sa faveur, en réclamant un jugement devant César à Rome. En aucune circonstance, il n'a été lâche et complaisant devant les autorités religieuses et civiles de son époque. Comme pour Paul, notre situation à l'instant T, maintenant ou avant, est liée et dépend de nos décisions ou absence de décision à l'instant T-1. Notre entourage, nos frères et sœurs, notre relation avec Dieu nous oriente pour décider. Il est clair que Paul, en n'allant pas à Jérusalem, n'aurait pas été arrêté, et sans son appel à César, il aurait été libéré directement par Festus. Le projet de Dieu pour Paul était qu'il puisse témoigner de l'évangile de Jésus-Christ à Rome. La façon d'arriver jusqu'à Rome est la conséquence de choix ou de non-choix liés à la personnalité de Paul et des circonstances. Dieu laisse beaucoup de liberté à ses enfants, même s'il reste maître de la finalité du projet. Le voyage peut commencer. Destination l'Italie, à la fin de l'automne, au début de l'hiver. Un bateau avec son équipage, la garde romaine avec le gradé Julius et ses soldats, les prisonniers dont Paul, qui sera présenté devant la justice de César, et quelques accompagnants, Luc, le narrateur, et un certain Aristarque, macédonien de Thessalonique. Après une première étape, on embarque tout le monde dans un plus grand navire avec 276 passagers. Mélange de personnes, tous dans le même bateau. Des riches, des pauvres, des prisonniers, des soldats pour les garder, des commerçants avec leur cargaison, des marins pour faire avancer le bateau. Tous sont solidaires les uns des autres par nécessité et pour la durée du voyage. Les hommes et les marchandises doivent arriver en Italie, mais c'est le début d'une période de l'année où la météo se gâte, les tempêtes se succèdent. Le voyage devient dangereux, tout le monde le sait. Paul, l'intellectuel, qui parle avec conviction et autorité, intervient, chapitre 27, verset 10. « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et le navire, mais encore pour nos personnes. Mais l'économie prend le dessus sur l'humain. Le capitaine et le patron du navire décident de poursuivre le voyage pour hiverner plus au nord. Malheureusement, les vents contraires empêchent d'atteindre l'objectif et le voyage tourne au drame. En plein milieu de nulle part, dans un bateau à la dérive, l'angoisse et la peur de mal finir s'emparent de chacun. La cargaison est jetée à la mer, les agrès du navire sont balancés par-dessus bord, on rationne sévèrement la nourriture. Paul, le prisonnier, reçoit une révélation, 27 verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Personne ne périra dans le naufrage et le bateau va s'échouer sur une île. Au bout de 14 jours, les marins repèrent une mer moins profonde et la probable proximité d'une terre ferme. C'est le moment de la tentation du chacun pour soi. On met la chaloupe à la mer et on quitte le navire pour laisser les soldats, les prisonniers et les autres passagers face à leur destin tragique. Mais, dans la tourmente, il vaut mieux se serrer les coudes et prendre les forces. Les soldats empêchent les marins de fuir et Paul suggère de prendre les forces avec un repas partagé sous le regard de Dieu. Rendre grâce, rompre le pain, partager le repas et reprendre courage pour la suite. À la levée du jour, la terre ferme est en vue et le bateau va s'échouer avant d'atteindre le rivage. Le contrôle des prisonniers va être compliqué. Les soldats suggèrent qu'on les tue. Encore une fois, la tentation du chacun pour soi. Mais le centenier empêche le massacre et tous atteindront le rivage. Ce bateau à la dérive me fait penser à notre terre et ses habitants. À chaque crise, la tentation du chacun pour soi refait surface. Les uns cherchent à quitter le navire, les autres mettent en œuvre la violence légitime pour rester maître de la situation. Mais où sont les Pauls contemporains qui invitent à rendre grâce à Dieu, à rompre le pain pour le partager et donner du courage ? Face aux éléments naturels déchaînés, les marins, les soldats, les prisonniers, les païens, les chrétiens font preuve de solidarité, malgré la tendance naturelle humaine de chacun pour soi, avec la promesse divine que personne ne périra lors du naufrage annoncé. Le naufrage n'est pas la fin de l'histoire. Tous ont regagné la terre ferme. L'accueil par les habitants de l'île est chaleureux. Sur la plage, un grand feu pour se réchauffer, pour se sécher, pour se réconforter, pour revivre. L'accueil par les autochtones, le texte les appelle les barbares, est bienveillant malgré leur culture païenne. Ils pensent rapidement que Paul est une divinité immortelle, lui qui a survécu au naufrage et au contact du serpent vénéneux. Paul reçoit un accueil personnalisé chez Publius, un notable de l'île de Malte, dont le père est malade, dit le texte. Fièvre et dysenterie. Fièvre de Malte. Ça parle à quelqu'un, fièvre de Malte?
Oui.
Ça existe, hein? Pierrot, ça dit quelque chose? Fièvre de Malte?
On n'arrive pas à se
soigner. Oui, c'est la brucellose en fait.
Ah, oui.
Ouais, donc, c'est une maladie qui fait avorter les vaches, les moutons et les chèvres. Et quand on boit le lait, on.
Vous avez des allergies?
Tu.
J'ai des allergies. absolument, parce que moi, j'avais souvenir que...
On a poussé l'eau sur la fièvre de Malte.
Ah oui, oui.
Ouais, c'est donc peut-être que c'était cette fièvre-là, quoi. Donc, c'est une petite aparté. Donc, voilà, peut-être ça vient d'ici, la fièvre de Malte. Donc, c'est transmis par le lait de mouton, de chèvre ou de vache sur les humains. Quoi. Et puis, chez les humains, ça donne de la fièvre qui est récurrente un petit peu. Enfin, ça fatigue, ça donne mal aux articulations. Une maladie ancienne, en tout cas. 3 mois pour passer l'hiver à l'abri des tempêtes méditerranéennes. 3 mois pour se remettre du naufrage. 3 mois pour se reconstruire, se guérir mutuellement. La catastrophe n'est jamais la fin de l'histoire dans la Bible. Après l'épreuve, après la souffrance, après l'angoisse, le temps vient où les choses s'apaisent, où nos corps et nos âmes retrouvent paix et confiance en l'avenir. Paul n'est pas resté inactif. Il a ramassé des broussailles pour alimenter le feu sur la plage, il a visité les malades, il a demandé à Dieu d'accorder la guérison aux uns et aux autres sans condition particulière. Luc ne mentionne aucune conversion, ni aucun baptême, ni aucune implantation d'église sur cette île. Simplement, un temps de repos, de relations bienveillantes entre humains, de partage de la grâce de Dieu qui veut le bien pour chaque être humain. Si nous prenons un peu de hauteur par rapport au texte, nous nous apercevrons qu'aux différents moments du récit, Paul et ses compagnons ont été en bénédiction pour les personnes qu'ils ont côtoyées. Prisonniers dociles, ils tissent une bonne relation avec Julius le centurion. Sans lourdeur excessive, ils parlent du Dieu à qui il appartient et qu'il sert pour annoncer la vie sauve pour tous les passagers et membres d'équipage. Lorsque la situation est désespérée, rescapé du naufrage, il ne se pose pas en victime, ne revendique pas le fait qu'il avait bien dit de ne pas embarquer à cette époque de l'année. Il fait du bien autour de lui, dans la mesure de ses capacités. Et au verset 10, nous lisons au moment du départ de Malte pour la suite du voyage, on nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Être en bénédiction pour les personnes que nous côtoyons, voilà ce à quoi nous sommes appelés. Que ce soit à titre individuel, en tant que communauté locale ou en tant qu'église chrétienne. C'est le projet de Dieu dès l'origine. Appartenir à Dieu et le servir, comme Paul le revendique, nous amène à porter un regard différent sur les tempêtes et les naufrages de notre vie. Sur notre route, il y a toujours un repas à partager, un feu pour nous réchauffer, un barbare pour nous accueillir. Que nous puissions rendre grâce, faire du bien, apporter la paix autour de nous, pour être également des instruments de la bénédiction divine. Paul est arrivé à Rome, il a continué à prêcher le royaume de Dieu et enseigner ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. On suppose qu'il a fini en martyr comme beaucoup de chrétiens que l'empereur romain Néron a violemment et lâchement combattu. Pour conclure, les décisions que nous prenons ou que nous ne prenons pas peuvent nous amener à affronter des tempêtes et des naufrages. Cela ne dépend pas que de nous, ce serait trop facile, mais dépend plus souvent de notre environnement social et naturel. Embarqués sur le bateau avec les autres, nos prochains, nous sommes appelés à faire le choix de la solidarité, de l'action collective. Le repli sur soi, le chacun pour soi, ne fait qu'aggraver l'angoisse et la souffrance. Le naufrage n'est jamais la fin de l'histoire. Dieu est éternel. Les générations se succèdent, le royaume de Dieu deviendra réalité, la terre sera restaurée, et les femmes et les hommes seront accueillis dans la présence de Dieu. Sur cette terre, enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre et à agir de telle façon que nous puissions être source de bénédiction pour nos prochains et pour la société dans laquelle nous vivons, quelles que soient les circonstances. C'est Dieu lui-même qui nous en donne la force. Amen. Amen.